Première règle du bon usage de l'histoire simple et brutale, savoir que le passé est là, que notre vie se compose de beaucoup plus de passé que de présent.
Le témoin de ce vendredi, Mona Ozouf.
Notre institutrice s'appelait Madame Kerry. Et je me souviens d'un truc, Mona avait horreur de la couture. Alors on la faisait s'asseoir sur une table à un plan incliné comme dans le temps avec des sièges, donc on était deux par deux. Et pendant que nous on s'échinait à faire des reprises et des coutures rabattues et tout ce que vous voulez, elle nous lisait une histoire. Elle lisait sa page de lecture avec des intonations et tout. Hein.
Ses camarades d'école de Ploua, c'était dans un autre temps, au bord de la mer, dans les côtes du Nord, comme on disait alors, avaient noté que la couture répugnait à Mona Ozouf, ou peut-être l'intimidait-elle. Et voilà qu'aujourd'hui, elle offre de son propre aveu un vertigineux travail de crochet. Où elle coud, c'est le vocabulaire qu'elle utilise, les nombreux livres et textes qu'elle a consacrés à notre pays. Ainsi est tissée une suite française qu'on peut apprécier des yeux et de la main. La France y paraît faite d'une même et unique étoffe, mais moirée de dissemblances qui laisse rêveur. Plus tard à Saint-Brieuc, Louis Guillou, l'auteur du Sang Noir, le protecteur de son adolescence, l'avait encouragé, même sans écrire des romans, tu peux écrire. Son goût de la littérature l'a protégé des jugements univoques. L'histoire telle qu'elle la pratique répugne à construire des blocs idéologiques. Dans le grand œuvre qu'elle publie aujourd'hui, les chemins qu'elle dessine à travers la France sont des plus divers et des plus inattendus. Avec toujours la même curiosité pour la puissance des commencements et le même goût, de plus en plus mélancolique peut-être, pour la vieillesse des choses.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Mona Ozouf, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Ce que vos camarades de classe considéraient comme une singularité, c'était nullement le signe d'une supériorité. Je me demande si ce n'était pas le signe d'une timidité.
Vis-à-vis de la couture,
vous
certes.
Intimidait.
Oui, la couture m'intimidait. Je n'ai jamais été capable de maîtriser le fait de mettre une pièce, par exemple. Ça m'est resté toujours opaque, en effet. Mais, bon, peut-être que je l'ai compensé en utilisant le vocabulaire. On peut maîtriser le vocabulaire de la couture sans maîtriser la couture.
Alors, vous publiez un livre cousu de beaucoup de vos ouvrages et de beaucoup de vos textes, avec l'aide des éditions Gallimard, de Révolution en République. C'est un volume quarto, un fort volume de plus de 1500 pages, Les chemins de la France. Alors, il y a ceux qui ont la chance d'avoir des photos pour appuyer leur mémoire, ceux qui n'ont pas cette chance. Vous avez des photos, vous n'avez pas eu toutes les chances dans votre enfance. Tout avait commencé dans les années 30, à Plourivaux, où votre père, Yann Seuillet, et votre mère, Anne, étaient instituteurs. Tout a déjà changé quand vous vous retrouvez à Ploua, où vos camarades de classe, on les entendait en ouverture de l'émission, évoquent ainsi aujourd'hui le trio que vous formiez avec votre grand-mère et votre mère.
Ces trois femmes-là, quand elles sont arrivées à Ploua, alors moi je me souviens, trois images, je dis même le triptyque, parce que c'était étonnant de voir la grand-mère, puis la femme, la fille qui était veuve et ça, et la petite fille. C'était copie conforme. C'était
ah oui,
les mêmes visages.
Et la grand-mère avec ça.
Belle. Elles étaient belles.
Oh, elle était belle, oui.
Je dirais même que la grand-mère était encore la plus belle. Elle avait la coiffe du Finistère, la coiffe bonnet, là, donc le visage très pur, très lisse. Madame Seuillet était encore une jeune femme, elle avait encore ce modelé du visage, bien que elle avait eu la vie dure, c'est certain. Et alors Mona, c'était le baby quant, la petite fille aux joues rondes, mignonne et tout ça. Et alors quand on les voyait toutes les trois ensemble, c'était indissociable.
Perrine Kervran, interrogée à Ploua pour la Fabrique de l'Histoire. On parlera de votre père, on a deviné qu'il était mort. Votre grand-mère, vous écrivait que c'est une icône de la Bretagne.
Oui, c'était tout à fait l'image de la Bretagne. Pourquoi ? Parce que d'abord, elle la coiffe, qu'elle ne quittait jamais. Je ne l'ai vue en cheveux, comme on disait, que sur son lit de mort. Le premier geste de la matinée était d'attacher cette coiffe. Donc la coiffe, les jupes noires amples d'un bout de l'année à l'autre. Et puis, la langue, le trésor de proverbes qui organisait l'existence. Ma grand-mère avait un répertoire de proverbes pour tout dire. Le bien, le mal, l'agréable, le désagréable. D'ailleurs, elle avait été chargée par mon père de me parler breton. Ce qu'elle n'a pas fait. Ce qu'elle n'a pas fait parce que, comme tous les ruraux de l'époque, le français pour elle était un passeport pour la vie moins dure.
Votre père, parlons-en, Yann Seuillet, était un instituteur autonomiste à tendance communiste et qui animait dans son village, avec votre mère, un bulletin, Arfals, destiné à défendre le breton dans les écoles publiques. Et vous avez conservé pieusement la bibliothèque qu'il avait laissée. Une vitrine qu'il avait demandée à un artiste breton des années 30.
Un artiste breton proche du mouvement des Seisbreurs. Donc c'est une vitrine aux entrelacs irlandais et qui était à la maison parmi tous les autres livres, parce qu'il y avait d'autres massifs de livres, qui étaient sacralisés et dans laquelle j'avais droit de puiser à mon gré. Et qui comportait des ouvrages tous relatifs à la Bretagne, soit nos grands écrivains bretons de langue française, Lamennais, Renan, Chateaubriand, soit tous les livres possibles sur la langue, le lexique, la grammaire, le folklore, les proverbes, que sais-je, les costumes. Et donc... Oui, une bibliothèque au fond très ample et en même temps beaucoup moins étroite que je n'ai l'air ici de le dire, parce que il n'y avait pas seulement la Bretagne, mais il y avait tous les cousins celtes.
Dans cette bibliothèque, il n'y avait pratiquement aucun livre qu'on retrouve dans la bibliothèque de l'école publique où enseignait votre mère.
Alors... Aucun. C'était deux univers complètement différents. Pourquoi ? Parce que d'une part, les héros de la maison n'étaient pas les héros de l'école. Les héros de l'école étaient... considérés à la maison comme possiblement des traîtres. Du Guesclin, dont on apprenait en classe que toutes les filles de France avaient filé une quenouille pour sa libération, était baptisé chez nous en Trubarde. En Trubarde, c'est en breton, c'est le traître. Et donc, les écrivains français qui s'étaient aventurés en Bretagne et avaient laissé de nous des portraits peu amènes étaient méprisés à la maison. Pas Mérimée, par exemple, qui dit qu'on ne peut parler breton qu'avec un baillon dans la bouche. Donc voilà, la description que les écrivains français donnaient de nous, comme des esprits un peu frustes, des corps mal lavés, des pensées sommaires, des cahutes comme demeure, voilà. Ça, c'était quelque chose que la maison haïssait.
Donc la petite fille boitait, si je puis dire, mais la boiterie, c'est un style.
Si on veut. Enfin, c'était quelque chose qui laissait quand même dans une extrême perplexité. Ma mère ne se permettait jamais de dire un mot de l'enseignement que je recevais dans les classes de ses collègues, mais elle levait un sourcil quand je revenais avec soit des poésies un peu niaiseuses, on dirait au Québec, que je récitais à la maison, ma mère levait un sourcil un peu désespéré. Et de la même manière, tout ce qui touchait à nos ancêtres les Gaulois était l'objet de sa dérision intérieure, mais que je sentais très bien.
De cet inconfort, écrivez-vous, sont nées mes curiosités. Elles y ont pris racine. Inconfort ?
Oui, peut-être que c'est un peu dramatisé, inconfort. Enfin, oui, perplexité, surtout bizarrerie, voilà.
À Saint-Brieuc, où vous faites ensuite vos études secondaires, vous rencontrez René Guillou, grande professeur, et son époux, l'immense écrivain Louis Guillou. Je voudrais vous raconter une histoire relative au service public de la radio qui aujourd'hui paraît relever de la légende bretonne. Guillou était impécunieux. Le directeur de France Culture d'alors lui donnait une pige, lui confiait un studio, plus modeste que celui où nous sommes, un technicien... Et il enregistrait tout seul ce qui lui passait par la tête.
C'est une langue que l'on parle à la ferme, que l'on parle à la cuisine. C'est une langue humiliée. C'est une langue de pays conquis. Je ne suis pas autonomiste, mais c'est une langue de pays asservi. C'est une langue qui est honteuse d'elle-même. Et par ailleurs, elle n'est pas fixée. Il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de journaux, il n'y a pas de revues. Enfin, elles n'ont pas la diffusion de François.
Oui,
mais qui a maintenu la langue ? Ce sont les curés. Pour la confession, pour la prédication, c'est une langue du berceau. C'est une langue qu'on apprend de sa mère. Et qu'on parle à la ferme, qu'on parle pendant 6-7 ans, avant d'aller à l'école où l'on apprend le français. Alors, ça me paraît, moi, digne de tous les respects et de tous les soins.
Une fois dit ceci, Louis Guillou, qui parlait beaucoup moins bien breton que vous, Mona Ozouf...
Ah, il parlait pas du tout.
Vous encourageait à partir, parce que lui, il trouvait insupportable Saint-Brieuc-des-Choux. Il disait, il faut aller à Paris, il faut aller vers l'universel, il faut lire un peu tout.
Oui, c'est tout à fait vrai. Il a essayé de me débarbouiller de mes admirations locales. Moi, je lisais beaucoup parce que c'était à la maison. J'avais beaucoup lu Anatole Le Braz, La Légende de la Mort, Charles Le Goffic, voilà, un peu de tout. Et bon, oui, lui n'avait que dérision pour ce type d'écrit. Et c'est lui, par exemple, qui m'a dit un jour, il faut que, séance tenante, il y a une chose à lire, c'est L'Étranger. Et donc, je suis allée chez Monsieur Basquin, qui était libraire à Saint-Brieuc, le libraire. Et j'ai acheté cet Étranger d'un certain Camus, dont je n'avais jamais entendu parler.
Après Normale supérieure, on passe les étapes. Littérature, philosophie, histoire. Vous aviez un grand goût, vous avez toujours un grand goût pour la littérature. Beaucoup de vos livres qui ne sont pas recueillis dans ce quarto chez les Gallimard sont consacrés au roman. Et le roman vous protège du jugement univoque.
J'espère, parce que le jugement univoque est une plaie, et une plaie de l'histoire du reste, qui se veut tellement souvent justicière, étroitement justicière. Donc oui, j'espère que le roman protège. En tout cas, oui, le roman est quelque chose qui est une échappée belle par rapport au travail universitaire.
Et puis, il y a beaucoup d'historiens qui font de l'histoire... comme il cueillerait des cerises un peu au hasard, tandis que vous avez une armature de philosophe.
Oh, je ne sais pas.
Quand même enseigné la philosophie, oui, après une agrégation de philosophie.
Oui, j'ai même adoré enseigner la philosophie, et je pense que c'est moins difficile à enseigner que l'histoire. L'histoire, j'aurais beaucoup de mal à enseigner l'histoire. Mais est-ce que ça donne une armature? Ça donne quelques lectures, sans doute, supplémentaires.
Oui, enfin, ne soyez pas modeste, parce que quand vous vous êtes mise à l'histoire, et à l'histoire de la Révolution, dont on va parler maintenant dans un instant, que vous avez commencé un grand travail d'archives sur la fête révolutionnaire. Vous êtes allé voir un historien un peu atypique, dont on reparlera plus longuement à la fin de l'émission, qui s'appelle Alphonse Dupron. Et qu'est-ce qu'il vous a dit quand vous avez pénétré dans son bureau? C'était tout un cérémonial d'entrer dans son bureau.
Oh, il m'a simplement demandé quel avait été mon parcours et je lui ai avoué que je n'avais pas l'agrégation d'histoire, mais que j'avais l'agrégation de philosophie. Il a fait un geste d'équivalence absolue entre les deux illustrations. Et puis je lui ai dit aussi que j'étais élève de l'école normale supérieure pour faire bon poids. Et là-dessus, il m'a dit « Chère madame, vous avez toutes les herbes de la Saint-Jean ».
C'est-à-dire qu'il parlait comme votre grand-mère, il avait tout un répertoire de littérature populaire aussi à sa disposition.
Oui, d'une certaine façon, mais beaucoup plus élaboré tout de même.
Et c'est comme ça que vous vous lancez avec son aval dans l'étude de la fête révolutionnaire. Alors je parlais du service public d'autrefois, tenez, voici l'ensemble polyphonique de l'ORTF en 1975, on peut dire tout ce qu'on veut des formations musicales de cette maison, elles ont quand même beaucoup changé depuis cet enregistrement.
Ah, ça ira, ça ira, ça ira, le vrai catéchisme nous instruira. L'affreux fanatisme s'éteindra, pour être la loi docile, tout en cesse s'exercera. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira, malgré les mutins, tout réussira. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, tirer des marteaux dans ta la guinguette. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, réjouissons-nous, le bon temps viendra. Le despotisme expirera, la liberté triomphera. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, nous n'avons plus ni temple ni prêtre. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, l'égalité partout régnera. L'esclave autrichien le suivra. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira, pleureur infernal, vite au diable s'envolera.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les prendra.
Et le témoin de ce vendredi, c'est Mona Ouzouf qui publie Les chemins de la France, de révolution en république, un fort volume quarto chez Gallimard, et on y retrouve in extenso votre livre sur la fête révolutionnaire. C'est une drôle d'idée hein, de s'intéresser à la fête révolutionnaire, et ça demande un travail de collecte d'archives, de lecture de combien de centaines?
Oh oui, beaucoup plus que
milliers,
ça. Oui,
de milliers de procès-verbaux de
oui,
fêtes.
Oui. Comment faire autrement, sinon de lire ces procès-verbaux qui, d'ailleurs, sont parfois fort décevants, parce que cette entreprise était malgré tout une entreprise assez à la fois extravagante et désespérée. Ces hommes avaient beaucoup d'autres choses à faire que de fêter ou que de se célébrer eux-mêmes. Et pourtant, ils n'ont cessé, pendant la décennie révolutionnaire, de s'échiner à fêter des choses tout à fait improbables, comme par exemple la fête de la mort du roi. Fête de la mort du roi, le 21 janvier, à Lokirec, par exemple, sous la pluie, en français, devant des gens qui ne parlent pas français, qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire? C'était effectivement une entreprise désespérée, mais en même temps avec un immense projet que la fête soit l'école de ceux qui n'avaient pas eu d'école et l'entretien de l'école chez ceux qui avaient eu l'école mais qui l'avaient oubliée.
Dites-moi, vous avez dit ces hommes, mais justement ce qui est tout à fait particulier dans la fête révolutionnaire, vous le dites d'entrée en citant longuement Michelet, c'est la participation des femmes et des enfants. Et citant d'ailleurs Michelet, je me demande si vous ne vous souveniez pas que, pendant votre enfance, les fêtes n'avaient pas eu.
Oui, je ne sais pas si vous n'essayez pas de reconstituer une cohérence dans ce que j'ai écrit. Est-ce que vraiment le projet d'écrire sur les fêtes a pris racine dans l'absence de fêtes de mon enfance, qui effectivement a été une enfance pas du tout malheureuse, mais une enfance à la fois claustrale et très austère. Très très austère et très solitaire. Je ne crois pas. Pour que vous ayez tout à fait raison, il faudrait que la fête révolutionnaire ait été un moment d'exubérance partagée, de fusion des cœurs et des esprits, ce qu'elle n'a pas été tout à fait. Ce que l'on découvre, même si on est attiré par ça au début et par le récit euphorique parfois de Michelet, on découvre quand même beaucoup de contraintes dans l'établissement de ce calendrier révolutionnaire et dans ce système de fêtes.
Vous parliez du temps révolutionnaire. Alors, il est de coutume de dire que 6 siècles se sont écoulés en 6 années, que la pulsation du temps est accélérée, et la fête, c'est la suspension du temps.
Oui, c'est la suspension du temps, mais malgré tout, qui est bien tenue de tenir compte, pardonnez-moi. Oh, bref.
C'est l'oralité. Et ces lourdeurs que vous dénoncez parfois.
Oui, absolument. Donc, elle doit bien tenir compte de la succession chaotique des événements et du fait que les grandes journées qu'elle célèbre se contestent les unes les autres ou se contredisent même les unes les autres. Donc, il y a quelque chose de tout à fait qui est extraordinairement difficile dans la célébration de la Révolution par elle-même.
Vous dites que 3 jours après la prise de la Bastille, on songeait déjà à la commémoration de la prise de la Bastille, et l'anniversaire, le 14 juillet 1790, a donné lieu à la fête de la Fédération, il faudrait même dire des fédérations, la France entière se donnant rendez-vous au bout de longs pèlerinages à Paris. Voici un texte d'Edgar Quinet.
Toutes les provinces parurent se lever spontanément pour venir se donner la main dans Paris. La fédération du 14 juillet 1790 devint elle-même une date presque aussi fameuse que la journée qui en avait été le prétexte. Mais ce qui laissa le plus long souvenir, ce fut le travail en commun pour disposer le Champ de Mars à recevoir sur ses terrasses 200 000 spectateurs. Voilà le moment où les cœurs fraternisèrent véritablement. Hommes, femmes, enfants de toutes classes se pliaient aux mêmes travaux, échangeaient entre eux la bêche, la pioche, la brouette. Rousseau eût pu croire qu'un peuple entier réalisait la vie de son Émile.
Est-ce qu'il y avait déjà à la fête de la Fédération des aérostats vers lesquels on tournait son regard. Parce que c'est ça la fête, on regarde tous dans le même sens, dans la même direction,
oui, c'est la merveilleuse analyse de Starobinsky, de la fête révolutionnaire, qui est effectivement illustrée par l'aérostat. Non, et en plus, comme vous savez certainement, il faisait un temps de cochon le 14 juillet.
Non, vous ne savez pas.
1790, les hôtels de la patrie se sont un peu envolés dans nos provinces bretonnes vantées. Le Norrois a eu raison de quantité d'hôtels de la patrie. Et par ailleurs, la fête a été beaucoup plus formatée que ce que suggère Quinet, qui du reste, d'une manière tout à fait intéressante, je trouve, s'intéresse beaucoup plus aux préparatifs de la fête, illustrant cet adage que le meilleur moment du dimanche est le samedi soir. Ce qui a été le plus réussi dans la fête de la Fédération, c'est effectivement le travail du Champ de Mars.
Et puis, le lundi, on s'est aperçu, Mirabeau le premier, que l'effort de réconciliation de la monarchie et de la Révolution n'avait pas pris aussi bien que ses partisans ne l'auraient souhaité. Fédération, régénération, composition. Vous avez, avec François Furet, plus tard, dans la perspective du bicentenaire de 1989, publié un dictionnaire critique de la Révolution. C'était un très très grand ami, Furet. Il y a d'ailleurs un échange entre vous au moment du départ du projet. Et si on se fâche pendant le dictionnaire, demandez-vous à François Furet.
Oui, c'est moi qui ai cette objection, parce qu'il était beaucoup plus savant que moi sur la Révolution française. Et d'autre part, je savais que c'était un commentateur sans indulgence des textes qu'on lui soumettait, mais en même temps très, très agréable à avoir en face, parce qu'il disait toujours le vrai. Et donc j'ai pensé que ça allait être compliqué. Je lui ai dit que la fin de notre amitié était peut-être contenue dans ce projet. À quoi il m'a répondu, alors ne le faisons pas. Ce qui m'a décidé.
Enfin, ce projet vous a fait, quand il a été réalisé, pas mal d'ennemis. Et vous n'aimez pas trop les polémiques, Manard.
Je n'y tiens pas. Mais quand il faut y entrer, j'y entre.
Oui. On lira dans votre quarto le texte sur Zeldin, l'historien anglais, par exemple. Fédération, régénération. Il y a beaucoup de mots qui relèvent de l'utopie dans le vocabulaire de la Révolution.
Bien sûr, et du reste, c'est un des éléments, je crois, de ma fascination pour la Révolution française. C'est l'idée qu'on peut tout recommencer à neuf. C'est la griserie de la table rase. On peut inventer. Et ça, je crois que ça tient aussi à une rencontre avec l'époque de ma vie où j'ai travaillé sur ce projet. C'est que dans la jeunesse, on a le sentiment qu'on peut tout inventer de son existence. Et ça rencontre cette capacité à déplacer les frontières du possible et de l'impossible qui sont présentes, je crois, dans la Révolution française.
Alors on croit qu'on peut trancher dans le temps et puis on s'aperçoit à l'usage que le temps est en pente douce et qu'il faut être plus modéré avec lui. Parce qu'au bout d'un moment, quand même dans la Révolution, que vous ne considérez pas du tout comme un bloc, vous faites des choix et le jacobinisme, vous l'abominez dans la mesure où il ne peut pas concevoir la division. Il ne peut pas concevoir les frontières, vous parliez de frontières tout à l'heure, entre la majorité et la minorité, entre la sphère publique et la sphère privée.
Oui, entre l'opposition et le gouvernement, oui, bien sûr.
Et vous prenez un mot qui n'est pas dans le dictionnaire et qui s'appelle composition.
Je crois qu'il y a un des grands problèmes de la Révolution française, c'est cette obsession de l'uniformité. Et bien entendu, elle a tout de suite trouvé ses contestataires parmi les hommes de la Révolution eux-mêmes et parmi le peuple révolutionné. On n'est pas parvenu à imposer le nouveau calendrier. On l'a fait, mais on n'a pas réussi à ce que les femmes, sans dimanche, le décadit. Elles ont continué à sortir du coffre les moins mauvaises nippes le jour du ci-devant dimanche. Elles ont continué, les femmes, à honorer les saints traditionnels. Et donc, personne n'est venu à bout, Robespierre n'est pas venu à bout de Saint-Fiacre. C'est ça, là aussi, la leçon de la Révolution française.
Saint-Fiacre, c'était un thème favori d'un séminaire que vous fréquentiez, celui d'Alphonse Dupron, l'historien qui vous avait protégé à votre entrée au CNRS et au moment de la fête révolutionnaire, et qui disait souvent, il ne faut pas être dans l'unité factice, il n'y a pas d'unité autrement que dans l'authentique. Et alors pendant que vous étiez au séminaire, si je me permets un souvenir personnel, moi j'assistais à un cours de licence qu'il donnait et dont les débuts étaient assez surprenants.
Vous allez entendre le cours de monsieur le professeur Alphonse Dupont, Art et Société dans l'Europe du XVIIIe siècle.
Il vous sera distribué la semaine prochaine une bibliographie. Cette bibliographie, vous aurez dans trois lignes l'art de s'en servir judicieusement, c'est-à-dire en connaissant l'ensemble d'une littérature et en lisant le moins de livres possible.
Enfin, en trois lignes, il y avait une heure ou deux de bibliographie, souvent une heure de chronologie dictée, tout à fait originale, la chronologie. Après quoi, il observait les rangs qui s'étaient éclaircis, c'était le tiers des étudiants, et il disait qu'il pouvait commencer. Dans ce son issu de Radio Sorbonne 1963, encore une autre époque, cette formule, je vous donne une bibliographie pour que vous ayez le moins à lire. C'est étrange.
Oui, c'est étrange, ça peut se comprendre de façon différente. Est-ce que ça veut dire que la bibliographie qu'il donne et qui comporte quand même, j'imagine, de bonne cinquantaine de titres, à tout le moins, est-ce que ça veut dire que ça suffit, c'est-à-dire que c'est tout ce qu'il faut avoir lu sur la question, ce qui quand même, est, je crois, donne à penser sur le niveau qu'on prête aux étudiants à l'époque et la capacité qu'on leur prête à lire. Mais ça n'est pas l'essentiel de cette affaire. C'est qu'il y a chez, il y avait chez Alphonse Dupont à la fois beaucoup de respect pour le livre et en même temps le sentiment que le livre n'était pas tout et qu'il fallait se défaire aussi du livre ou de la sacralité du livre à un certain moment.
Moi, je me souviens d'un devoir. Vous allez au Louvre, vous choisissez le tableau que vous voulez, vous vous plantez devant le tableau et je ne veux voir aucune trace d'un commentaire écrit que vous ayez lu. Votre œil écoute, votre main écrit. C'est ça quand même l'attitude de l'historien idéal.
Oui, c'est-à-dire que Dupont pensait, mais ça c'est dans la, à mon sens, c'est l'enseignement d'Alain qu'il poursuivait là.
Philosophe Alain, dont il avait été l'élève.
Dont il avait été l'élève et auquel il rend d'ailleurs hommage à plusieurs reprises dans le livre du Sacré. Donc, il faut apprendre à lire. Il faut apprendre à lire, il faut apprendre à écouter, il faut apprendre à voir. Et donc, avoir par rapport à ce que l'on entend, ce que l'on voit, une sorte d'attitude de réceptivité et d'humilité aussi. Et ne pas aller devant l'objet concret bardé de références.
Et c'est comme ça que l'histoire est une thérapie.
Aussi.
Hein, une différence entre vous, il a peut-être plus confiance en l'avenir. Vous, vous êtes davantage mélancolique.
Ça, je ne sais pas. Non, je ne sais pas sur quoi vous pouvez vous appuyer
le
pour
paysage
dire
derrière nous s'embrume et s'éloigne le monde que nous savons avoir perdu. Citation extraite du
oui,
quarto.
Oui, mais vous n'êtes pas obligé d'y mettre cet accent pathétique, Jean.
De Révolution en République, les chemins de la France chez Gallimard. Merci à vous, Mona Ouzouf, et le vieux maître, pour finir avec son accent à lui.
Les leçons de l'histoire, cela ne saurait être autre chose que la conscience aussi exacte qu'il est possible de ce qui s'est passé durant le passé. À nous, ensuite, avec ce que nous aurons compris du passé, de travailler sur nous-mêmes en notre présent. Mais commander au présent au nom de l'histoire, c'est comme si nous écoutions grand-père ou papa.
L'émission a été préparée par Elinka Negulesco, réalisée par Jacques Sigal, avec à la technique Pauline Laverdure.